En ce mardi saint, je vais récapituler ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui pour arriver jusqu'au Christ, avec un résumé qui est fait par le Saint-Esprit lui-même, ce qui est très pratique. Ce résumé de l'histoire sainte se trouve dans le livre de l'Ecclésiastique. Au chapitre 44 et suivant. Et vous reconnaîtrez tout ce que je peux vous dire. Et vous serez sans doute impressionné de la manière dont, dans le livre de l'Ecclésiastique, on retrace toute la Sainte Écriture, ce qui montre justement son inspiration. Dans les manuscrits grecs, le livre de l'Ecclésiastique est désigné sous le nom de la sagesse de Jésus, fils de Sirac, ou simplement la sagesse de Sirac. Donc le livre de Sirac le sage, parfois. Au chapitre 50, verset 27, dans le grec, l'auteur se nomme lui-même Jésus, fils de Sirac. Donc Dieu sauveur, hein, Jésus. De Jérusalem. Dans l'hébreu, on a Simon, fils de Jésus, fils d'Éléazar, fils de Sira. Le livre a été composé selon l'opinion qui paraît la plus probable, peu de temps après le pontificat de Simon, fils d'Onias, grand prêtre, en l'an 219-199 avant Jésus-Christ, dont le chapitre 50 fait l'éloge d'ailleurs, sans doute aux abords des années 180. Bien que jusqu'à ces derniers temps, on ne connût l'Ecclésiastique que par les versions grecques, syriaque et latine, on admet à peu près unanimement que l'ouvrage avait été composé en hébreu. Je n'irai pas plus loin dans l'exégèse. Vous savez que je suis fâché avec les exégètes. Donc. Chapitre 44. Cela va nous préparer au Christ souffrant. Faisons donc l'éloge des hommes illustres et des pères de notre race. En eux, le Seigneur a opéré de nombreuses merveilles. Il a manifesté sa grandeur dès l'origine. C'étaient des souverains dans leur royaume, des hommes renommés par leur puissance, des conseillers remplis de sagesse, annonçant la volonté divine par leur prophétie. Je pense que c'est l'Église n'est plus... Des guides du peuple par leur conseil et leur prudence, des docteurs du peuple qui l'instruisaient par de sages discours, des hommes cultivant l'art des saintes mélodies et qui ont mis par écrit de poétiques récits, des riches ayant des biens en abondance, vivant en paix dans leur demeure. Tous ces hommes furent honorés par leurs contemporains, tous ont été la gloire de leur temps. Il en est parmi eux qui ont laissé un nom pour qu'on puisse raconter leurs louanges. Il en est dont il n'y a plus de souvenir. Ils ont péri comme s'ils n'avaient jamais existé. Ils sont devenus comme s'ils n'étaient jamais nés. Et de même leurs enfants après eux. Les premiers étaient des hommes pieux dont les vertus n'ont pas été oubliées. Le bonheur reste attaché à leur race et un héritage est assuré à leurs enfants. Leur race se maintient fidèle aux alliances et leurs enfants à cause d'eux. Leur race demeure éternellement et leur gloire ne sera jamais effacée. Leur corps a été enseveli en paix et leur nom vit d'âge en âge. Les peuples célèbrent leur sagesse et l'Assemblée publie leur louange. Alors voyez-vous, nous sommes en 2016 et nous allons parler d'hommes qui sont morts il y a 4000 ans. Voyez, donc c'est prophétique et ça s'est accompli. Alors, souvenez-vous de ce que je vous disais de la Genèse. Le premier est le suivant. Donc c'est le chapitre 44, verset 16. Énoch fut agréable au Seigneur et il a été transporté. C'est-à-dire il a été enlevé. Donc ça veut dire qu'en l'an 200, Énoch qui a été enlevé en l'an environ, n'est-ce pas 3400 ans avant Jésus-Christ, eh bien, on en parle encore. Et c'est la raison pour laquelle les pères de l'Église insistent sur le retour d'Enoch. Voilà. Donc je vous le lis comme c'est écrit, n'est-ce pas ? Noé a été trouvé parfait et juste. Alors, Enoch fut agréable au Seigneur, il a été emporté. Exemple de pénitence pour les générations. Noé a été trouvé parfait et juste au temps de la colère. Il fut la rançon de l'humanité. C'est pourquoi un reste lui fut laissé à la terre lorsque le déluge arriva. Une alliance éternelle a été faite avec lui, afin que toute chair ne fût plus détruite par un déluge. Abraham est l'illustre père d'une multitude de nations. Il ne s'est trouvé personne qui l'égala en gloire. Il a trouvé la loi du Très-Haut, il a gardé la loi du Très-Haut, et il est entré en alliance avec lui. Il a institué cette alliance dans sa chair, et dans l'épreuve, il s'est montré fidèle. Qu'est-ce que sous-entend l'auteur de l'Ecclésiastique ? Dans l'épreuve, il s'est montré fidèle, et sans le sacrifice d'Isaac. Aussi, Dieu lui assura par serment que les nations seraient bénies dans sa race. Il lui promit de le multiplier comme la poussière de la terre, et d'élever sa postérité comme les étoiles, de leur donner en héritage depuis la mer jusqu'à l'autre mer, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Donc vous voyez, le mot race ici, c'est la descendance, mais les nations, c'est toutes les races. De la même manière, il confirma en Isaac, à cause de son père Abraham, la bénédiction de tous les peuples et l'alliance. De tous les peuples. Et il la fit reposer ensuite sur la tête de Jacob. Il eut égard à lui dans ses bénédictions. Il lui donna le pays en héritage. Il en fit diverses portions et les partagea entre les 12 tribus. Quel résumé foudroyant, n'est-ce pas, de la Sainte Écriture. Il a fait sortir de Jacob un homme pieux qui trouva grâce auprès de toute chair, un homme aimé de Dieu et des hommes, Moïse. Que sa mémoire soit en bénédiction. Il lui a donné une gloire égale à celle des saints. Il l'a rendu grand par les terreurs qu'il inspira aux ennemis, les 10 plaies d'Égypte. Par sa parole, il a fait cesser les prodiges. Les plaies commençaient et elles s'arrêtaient par la volonté de Moïse. Il l'a glorifié devant les rois, Pharaon. Il lui a donné des commandements pour son peuple, Mont Sinaï. Il lui a fait voir un rayon de sa gloire. Moïse a demandé à voir Dieu et il l'a vu de dos, dans la brise légère, comme pour Élie d'ailleurs. À cause de sa foi et de sa mansuétude, il l'a consacré, il l'a choisi d'entre tous les mortels. Il lui a fait entendre sa voix, il l'a introduit dans la nuée, il lui a donné face à face des commandements, la loi de la vie et de la science, pour qu'il l'enseignât à Jacob son alliance et ses décrets à Israël. Vous voyez le synonyme entre Jacob, qui mérite le nom d'Israël. Et du coup, c'est à chaque fois un jeu de mots entre Jacob et Israël. Il a élevé Aaron, un saint semblable à lui, son frère de la tribu de Lévi. Il conclut avec lui une alliance éternelle. Il lui donna le sacerdoce de son peuple. Il l'orna d'une splendide parure et le ceignit de la robe de gloire. Il le revêtit d'une souveraine magnificence et lui assigna des vêtements d'honneur. La longue tunique et l'éphod, il l'entoura de grenades avec de nombreuses clochettes d'or alentour qui devaient retentir quand il marchait et faire entendre leur son dans le temple. C'était un mémorial pour les fils de son peuple. Il l'entoura du vêtement sacré tissé d'or, d'hyacinthe, de pourpre, ouvrage du brodeur, du rational du jugement avec l'ourim et le thummim, fait de fils d'écarlate, œuvre d'un artiste. Hein, c'était la tiare et les plastrons. Avec des pierres précieuses gravées comme les cachets et enchâssées dans l'or, un travail d'un lapidaire, pour être un mémorial des noms étant écrits selon le nombre des tribus d'Israël. Il lui mit sur la tiare la couronne d'or, portant ces mots gravés, « Saint du Seigneur ». Un signe d'honneur, ouvrage parfait, délice des yeux, parure magnifique. On est contre la liturgie synagogale. Hein. Alors l'Urim et le Thummim, c'était les plastrons, où il y avait les 12 pierres semi-précieuses avec les suivant les 12 tribus d'Israël. Rien de pareil n'a été avant lui et ne sera jamais. Alors c'est très emphatique hein, par rapport à ce qui va se passer. Hein. Aucun étranger ne s'en est revêtu, mais seulement ses fils et ses descendants dans la suite des âges. Vous voyez, quand je vous parlais de la famille d'Aaron,
vous mettiez sur le côté, vous allez avoir mal au...
Merci, je suis merci.
Ces holocaustes seront offerts deux fois chaque jour, sans interruption. Moïse lui remplit les mains, éloignit de l'huile sainte. Encore maintenant, les évêques sont loin. Ce fut pour lui une alliance éternelle et pour sa race, tant que dureront les jours du ciel, de servir le Seigneur et de remplir les fonctions du sacerdoce et de bénir son peuple en son nom. Voyez, le Christ n'est pas de la famille d'Aaron, de la tribu de Lévi. Donc c'est le sacerdoce nouveau, mais qui est bien sûr une continuité du sacerdoce lévitique. Donc voyez, comment, quand certains disent, oh, le sacerdoce, la prêtrise, c'est culturel. Ben, non, c'est la volonté de Dieu. Parce qu'en fait, nous aurons un chef déterminé ou nous n'en aurons pas. Il faut toujours quelqu'un qui prenne la décision ultime dans la nature humaine. C'est jamais un collectif qui prend une décision, c'est toujours un homme. D'ailleurs, même le système très démocratique contemporain ne peut pas s'empêcher d'avoir des présidents qu'on responsabilise. Hein. C'est Obama à Cuba, c'est des noms, c'est des personnes. Le Seigneur le choisit parmi tous les vivants pour lui présenter l'offrande, le parfum et la suave odeur en souvenir et pour faire l'expiation des péchés de son peuple. Il lui donna dans ses commandements autorité sur les saintes ordonnances pour apprendre à Jacob ses préceptes et enseigner sa loi à Israël. Vous voyez, vous avez toutes les charges du sacerdoce. Des étrangers conspirèrent contre lui et furent jaloux de lui dans le désert. Les hommes du parti de Dathan et d'Abiron et la bande de Corée, ardente et furieuse. Le Seigneur le vit et n'y eut pas plaisir, et ils furent exterminés dans l'ardeur de sa colère. Il fit contre eux des prodiges et il les consuma par la flamme de son feu. Et ils ont été tous morts. Il y a un feu qui est sorti du sol et ils avaient prétendu être prêtres à la place des prêtres, donc attention aux laïcs. Je voudrais exercer les fonctions du sacerdoce sans être ordonné. Et voilà. Il augmenta la gloire d'Aaron et lui assigna un héritage. Il lui donna en partage les prémices des fruits de la terre. Avant tout, il prépara le pain pour les rassasier. Ils se nourrissent des sacrifices du Seigneur qu'il donna à Aaron et à ses descendants. Seulement, il n'a pas d'héritage dans la terre du peuple. Il n'y a que des villes lévitiques. Ils vivent de la dîme, de la nourriture et donnée aux prêtres. Et il n'a pas de part au sein de la nation, car dit le Seigneur, je serai ta part et ton héritage. Phinéas, fils d'Éléazar, est le troisième en gloire, en ce qu'il montra du zèle dans la crainte du Seigneur, et que dans la défection du peuple, il demeura ferme, dans le noble courage de son âme, et fit l'expiation pour Israël. Donc ça, c'est celui qui résista avec Josué, je crois. Josué et Caleb. Alors je vais passer un peu, quoique... Chapitre 46. Il fut vaillant à la guerre, Josué, fils de Nun, qui succéda à Moïse dans la dignité de prophète, et qui, vérifiant son nom, se montra grand dans la délivrance des élus du Seigneur, en châtiant les ennemis bouleversés, soulevés, afin de mettre Israël en possession du pays, Jéricho, tout ça. De quelle gloire il se couvrit lorsqu'il leva ses mains et étendit son épée contre les villes. qui jamais avant lui soutint tant de combats, quand le Seigneur lui-même amenait les ennemis. Le soleil, au geste de sa main, n'a-t-il pas rétrogradé, et un seul jour ne fut-il pas pareil à deux jours ? Le miracle solaire de Josué, qui poursuivait les ennemis dans la vallée de Gabaon, le seul miracle solaire dont on a l'exemple depuis 3400 ans, c'est Fatima, en 1917. Donc, vous voyez, le bon Dieu n'a pas le bras court. Et il peut à nouveau faire des signes. Il invoqua le Très-Haut Souverain pendant qu'il pressait les ennemis de tous côtés, et le Seigneur Tout-Puissant l'entendit avec des pierres de grêle d'une grande force. Le Seigneur fondit sur la nation hostile et fit périr les adversaires dans le défilé, afin que les nations connussent toutes les armes de Josué. C'est assez impressionnant. Bon, c'est là, on manifeste, n'est-ce pas, le fait que, n'oubliez pas, les nations cananéennes faisaient des sacrifices humains et des sacrifices d'enfants. Ces miracles sont lointains et nous sommes dans la nouvelle alliance, donc dans l'alliance de l'agneau de Dieu. Pourtant, il y a eu les pentes, il y a eu aussi des victoires militaires, la victoire de Vienne. À chaque fois, on faisait une fête mariale à chaque victoire sur l'envahisseur musulman. Et actuellement, vous voyez, nous avons à prier la Vierge Marie pour que les musulmans se convertissent et demandent le baptême. Parce qu'actuellement, oui, mais voyez-vous, les mercenaires qui ont frappé à Paris comme à Bruxelles sont là pour nous faire la guerre avec des nations musulmanes. Mais voyez-vous, on peut faire la guerre pour se défendre, mais nous sommes des baptisés. Et tout en se défendant, nous devons proposer la foi. Puisqu'ils prétendent, ou on leur fait prétendre, que c'est au nom d'Allah qu'ils tuent comme ça des innocents au hasard, on y mêle de la religion. Mais moi, en tant que prêtre, je vous dis qu'il n'y a rien de religieux dans tout ça. Et que c'est purement des actions militaires. Voilà mon avis. Ensuite, je peux me tromper, et du coup, la police venir et m'interroger, éventuellement me mettre en garde à vue, ça me fera des vacances. Le pacifisme étant la seule réponse, à mon avis, dans un premier temps, et ensuite, si on est contraint à se défendre, on se défendra. Mais j'ai bien l'impression qu'il y a quelque chose de malsain dans tout ça. Les juges, chacun selon leur nom, les juges, vous n'oubliez pas, de 1400 à 1000, de la mort de Josué à la demande d'un roi, le bon Dieu a envoyé des hommes et des femmes providentiels qu'on appelle les juges. Et les juges, chacun selon son nom, tous ceux dont le cœur ne s'est pas adonné à la fornication, c'est-à-dire s'est détourné du vrai Dieu pour aller avec les faux dieux, tous ceux qui ne se sont pas détournés du Seigneur, que leur mémoire soit en bénédiction, que leurs os refleurissent du sein de leur tombeau, allusion à la résurrection, et que leur nom se renouvelle dans les enfants de ces hommes illustres. Samuel fut aimé du Seigneur son Dieu, prophète du Seigneur, il a établi la royauté. C'est lui qui a eu la demande du peuple et il a pris Saül. Il a oint des princes pour commander à son peuple. Il a jugé l'assemblée selon la loi du Seigneur, et le Seigneur abaissa ses regards sur Jacob. Par sa véracité, il se montra prophète, et à sa véracité on reconnut un voyant digne de foi. Il invoqua le Seigneur souverain lorsque ses ennemis le pressaient de toutes parts. Il offrit un agneau encore à la mamelle, et le Seigneur tonna du haut du ciel, et avec grand éclat, il fit entendre sa voix. Il écrasa les chefs des Tyriens de Tyr et tous les princes des Philistins. Avant le temps de l'éternel sommeil, Samuel prit à témoin le Seigneur et son oint, le roi, le Christ. De personne je n'ai reçu un don, pas même des sandales. Et aucun homme ne se leva pour l'accuser lorsqu'il se fut endormi. Il prophétisa, il annonça au roi sa fin prochaine. Du sein de la terre, il éleva sa voix en prophétisant afin d'effacer l'iniquité du peuple. C'est une allusion au fait que Saül a demandé à une sorcière, à une pythonisse, de faire venir l'âme de Samuel. Et par exception, parce qu'en général, quand vous invoquez les morts, ce sont des démons qui contrefont les morts. La voix, toute l'histoire du mort. Donc vous pensez que c'est votre mère, votre père, votre frère, votre sœur, mais c'est un démon qui répond, puisque Dieu nous interdit d'invoquer les morts. Il ne nous permet que de leur parler pour avoir des grâces auprès de lui. Nous pouvons parler aux morts, mais uniquement pour leur demander de prier pour notre vie spirituelle et notre salut. Pas pour connaître le loto, le tiercé, l'amour, le travail, tout ça, non. Et Saül a invoqué Samuel pour connaître l'issue de son combat. Et là, grosse surprise, le bon Dieu a fait monter des limbes des patriarches l'âme de Samuel, qui lui a dit « Je suis Samuel » et autres. C'est ce qu'il voulait, mais Samuel lui annonce qu'il va perdre cette bataille et mourir. Je saute Salomon, parce que sinon on a quoi que. Je vais au chapitre 47, verset 12. Après David s'éleva un fils plein de sagesse. À cause de son père, il vécut dans la prospérité. Salomon régna en des jours de paix. Dieu lui avait procuré le repos tout autour, afin qu'il bâtît un temple à son nom et prépara un sanctuaire éternel. Comme tu étais sage dans ta jeunesse et débordant d'intelligence comme un fleuve, ton esprit a couvert la terre et tu l'as rempli de sentences au sens caché. Ton nom est arrivé jusqu'aux îles lointaines. Vous savez qu'est-ce que sont les îles dans la Sainte Écriture? C'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est l'Europe. Ce sont les îles lointaines, les païens, les nations. Et tu fus aimé dans ta paix. Par tes cantiques, tes proverbes, tes paraboles et tes réponses, le monde t'a admiré. Au nom du Seigneur Dieu, qui a appelé le Dieu d'Israël, tu as amassé l'or comme l'étain et amoncelé l'argent comme le plomb. Tu t'es livré aux femmes, 700 concubines, 300 femmes légitimes, et tu as donné puissance sur ton corps, tu as imprimé une tache à ta gloire, et tu as profané ta race. Ainsi, tu as attiré la colère sur tes enfants. Je sens une cruelle douleur pour ta folie. Elle a été cause que l'Empire fut partagé en deux et que d'Éphraïm s'éleva le chef d'un royaume rebelle. Vous voyez, la punition de l'idolâtrie des femmes de Salomon qui ont offert à la lune et aux autres dieux païens des bébés de Salomon, des enfants de lui, de son harem. Mais il a... À la fin de sa vie, l'opinion commune, c'est qu'il s'est converti de toute cette ivresse de pouvoir et de richesse qu'il a eue. Mais le résultat, quand même, c'est que Dieu va diviser le royaume entre le nord et le sud. Mais le Seigneur n'abandonnera pas sa miséricorde, et aucune de ses œuvres ne périra. Il ne détruira pas la postérité de son élu, et ne fera pas disparaître la race de celui qu'il aimait. Il a laissé à Jacob un reste, et à David un rejeton de sa race. Salomon reposa avec ses pères et laissa après lui de sa race un fils, insensé aux yeux du peuple, dépourvu de prudence. Roboam, qui amena le peuple à s'écarter de ses conseils, et Jéroboam, fils de Nabat, qui fit pécher Israël, et offrit à Éphraïm la voie de la prévarication, en rétablissant le veau d'or, dans la capitale du Nord. Et les péchés des Israélites se multiplièrent à l'excès, en sorte que l'on emmena loin de leur pays, et ils poursuivirent toutes sortes d'iniquités, jusqu'à ce que la vengeance vint fondre sur eux. C'est quoi cette vengeance? C'est l'invasion assyrienne et babylonienne, qui descendit jusqu'au royaume de Juda. Ensuite se leva Élie, prophète semblable au feu, et sa parole était enflammée comme un flambeau. Il fit venir la flamme sur Israël, et par son zèle, il le réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il ferma le ciel. De même, il en fit trois fois tomber le feu. Vous avez le roi qui voulait arrêter Élie, et à chaque fois qu'il y avait une escouade qui venait, elle était, il y avait un feu divin, un feu du ciel qui les tuait. Vous voyez ? Alors vous dites, oh là là, tous ces miracles mirobolants. Oui, combien tu t'es rendu glorieux, ô Élie, par tes prodiges, et qui pourrait se vanter d'être semblable à toi ? Toi qui a fait lever un cadavre du sein de la mort, le petit enfant qu'il a ressuscité, et du Shéol, les limbes des patriarches, des âmes avant la venue du Christ, par la parole du Très-Haut. Toi qui as précipité des rois dans la ruine et d'illustres personnages de leur couche dans la mort. Toi qui as entendu sur le Sinaï des remontrances et sur l'Horeb des arrêts de vengeance. Toi qui as sacré des rois pour exercer la vengeance et des prophètes pour te succéder. Toi qui fus enlevé dans un tourbillon de flammes et dans un char aux chevaux de feu. Ah ah. Et donc, Élie, c'est comme Hénoch, disparu. D'où les pères de l'Église et la tradition de l'Église, complètement actuellement mise sous silence, mais jamais nié, du retour d'Hénoch et d'Élie à la fin des temps, face à l'Antéchrist et avant le retour du Christ. On verra bien. Toi qui as désigné dans de sévères écrits pour des temps à venir, comme devant apaiser la colère avant qu'elle s'enflamme, ramener le cœur du Père vers l'enfant et rétablir les tribus d'Israël. Heureux ceux qui te verront. On est en 200 ans avant Jésus-Christ. Élie a été emporté environ dans l'an 700 avant Jésus-Christ. Et l'écrivain sacré de l'Ecclésiastique dit « Élie va revenir ». Et c'est pour ça qu'on demande à Jésus, qu'on demande à Saint Jean-Baptiste ou à Jésus, est-ce qu'il est Élie ? Et vous entendrez pendant cette semaine sainte, quand Jésus dit en hébreu, en araméen, Élie, Élie, laba sabachthani, ce qui veut dire Dieu, Elohim. Eh bien, eux, ils entendent Élie, et alors ils disent, et il appelle le prophète Élie. Voyons s'il va venir. Pourquoi ? Ben parce que le peuple, les prêtres, savent que Élie doit revenir. Saint Jean-Baptiste a dit « Je ne suis pas Élie ». Jésus a dit qu'il viendrait dans la vertu, qu'il est de la vertu d'Élie. Mais il n'est pas Élie, Jean-Baptiste. Donc Élie doit encore venir. Et d'où vient cette croyance ? Eh bien, c'est une révélation scripturaire. « Heureux ceux qui te verront » Chapitre 48, verset 11. Heureux ceux qui te verront. Donc, heureux ceux qui verront la fin des temps, quand même. Ouais. Si on veut. Oui, mais parce que ça sera exaltant. Il va y avoir beaucoup de grâce. Heureux ceux qui te verront et qui seront parés de l'amour de Dieu. Quelle belle référence au futur, qui est moins sévère que les temps de l'Ancien Testament. Car nous aussi, nous serons certainement en vie. Lorsqu'Élie eut été enveloppé dans le tourbillon, Élisée fut rempli de son esprit. Durant ces jours, il ne fut ébranlé par aucun prince, et personne ne le domina. Rien ne lui fut impossible, et son corps, couché dans le tombeau, fit des miracles. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un épisode peu connu de la Sainte Écriture. Donc, Élisée a ressuscité un petit enfant aussi. Mais à son tombeau, lorsqu'on enterrait un mort à côté du corps d'Élisée, il ressuscitait. Et ça s'est passé plusieurs fois. Et l'Esprit Saint nous l'affirme. N'en déplaise aux exégètes, qui nie tous les miracles. Pendant sa vie, il fit des prodiges, et dans sa mort, il opéra des merveilles. Malgré tout cela, le peuple ne se repentit point et ne s'éloigna pas du péché, jusqu'à ce qu'il fût emmené loin de son pays, est dispersé par toute la terre. Les Assyriens, les Babyloniens, les Perses et les Mèdes. Destruction du temple par les Babyloniens. Départ en exil de la famille royale de Jérusalem. de la tribu de Juda. 70 ans d'exil. Et les Babyloniens sont détruits par l'empire perse. Et Cyrus, roi des Perses et des Mèdes, pas des Médès, hein, mais des Mèdes, va faire miséricorde au peuple juif et va leur dire « Pour certains d'entre vous, vous pouvez revenir sur vos terres et reconstruire le temple de votre Dieu. » Et le deuxième temple qu'ils vont reconstruire dans les années 500 va être moins beau que le temple de Salomon. Et je vous ai dit la dernière fois que le temple d'Hérode, c'est le deuxième temple embelli par des murs, par des colonnes supplémentaires. Mais le cœur même de ce deuxième temple est conservé. Et quand Jésus dit « Détruisez ce temple et je le reconstruirai en trois jours », c'est le deuxième temple. Et donc, quand le deuxième temple embelli par Hérode a été détruit par les Romains en l'an 70, il n'a plus à être reconstruit, car le vrai temple, maintenant, n'est pas fait de main d'homme. C'est le temple du corps de Jésus. Si on veut rentrer dans un temple, on n'a qu'à communier. Et le Christ entre en nous d'une manière particulière, parce que par la grâce trinitaire, Dieu habite en nous. Et même avant le baptême d'eau, par le baptême de désir, si vous êtes droit, sincère, la Sainte Trinité habite déjà en vous, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais le baptême d'eau consacre votre désir. Eh bien, reconstruire un troisième temple est un blasphème contre l'agneau de Dieu, contre le corps de Jésus. Et même par gentillesse, par la religiosité des juifs pieux, les chrétiens doivent dire « Nous qui sommes de religion juive et qui ont pour Messie votre Messie, reconstruire le temple, on ne peut pas être d'accord avec vous parce que ça voudrait dire qu'il faut reconstruire un édifice alors que le vrai temple dans son humanité est venu. » On verra la querelle future parce qu'il est bien probable, après la guerre d'Orient, que l'esplanade du temple sera rasée et qu'on reconstruira un temple d'amour et de paix après cette guerre effroyable qui aura vu l'explosion de la mosquée d'Al-Aqsa et il y aura un temple, l'ONU se déplacera de New York à Jérusalem pour faire un temple merveilleux d'amour et de paix. Je ne sais pas si entre la contraception, l'avortement, l'euthanasie et la débauche sexuelle, ça sera une super, super religion. C'est peut-être la raison pour laquelle les juifs pieux, voyant que le temple reconstruit sera habité par une ONU complètement libertaire et pseudo-religieuses vont peut-être se dire « c'est pas notre Messie et c'est pas notre temple. » Alors ils se tourneront vers le Christ. Mais ça, c'est qu'à la fin des temps. Mais c'est dans longtemps, ne vous inquiétez pas, dans 2000 ou 5000 ans, qu'il y aura une guerre en Orient, avec les pays là-bas. En ce moment, c'est la paix universelle. Donc il n'y a aucun souci à se faire. Il ne resta qu'un petit peuple, avec un chef de la maison de David, Zorobabel, je crois, était de la famille de David. Il était de la race royale. Parmi ceux-ci, quelques-uns firent ce qui est agréable à Dieu, et d'autres multiplièrent les transgressions. Ézéchias fortifia sa ville, et amena dans son enceinte le Gihon. Avec le fer, il creusa le rocher, et construisit des réservoirs pour les eaux. De son temps, Sennachérib monta et envoya Rabsacès. Celui-ci partit et leva la main contre Sion et se vanta dans sa jactance. Alors leur cœur et leurs mains tremblèrent et ils furent dans la douleur comme les femmes qui enfantent. Ils invoquèrent le Seigneur miséricordieux, étendant leurs mains vers lui, et le Saint les entendit aussitôt du ciel et les délivra par le ministère d'Isaïe. Donc il frappa l'armée des Assyriens et son ange les extermina. Donc là, l'exil, c'était plus haut, c'était du temps d'Élysée, c'est le royaume du Nord, Israël. L'exil n'atteint pas encore la capitale, Jérusalem. Je suis allé trop vite tout à l'heure. Et quand ça atteint la capitale, et que les Assyriens sont là, Isaïe est là et leur dit « Vous verrez la gloire du Seigneur et le lendemain, vous avez 180 000 morts autour de Jérusalem. Hein, » je vous avais dit que l'ange exterminateur avait repris un peu de service à ce moment-là. Bon, et son ange les extermina. Alors, voyez, au point de vue exégèse, Isaïe leur dit « Vous verrez la gloire du Seigneur demain. » Jérusalem était encerclée. Il frappa l'armée des Assyriens et son ange les extermina. Donc si vous dites qu'ils sont morts d'une dysenterie foudroyante ou d'un botulisme terrible pendant la nuit, tous, en une nuit, ou alors on a mis du cyanure ou du curare dans leur nourriture, dans toutes les popotes autour de toutes les tentes des Assyriens, vous niez quoi ? Ben une révélation, non seulement du livre des rois et d'Isaïe, mais aussi du livre de l'Ecclésiastique, qui reprécise qu'il y a eu ce miracle. Vous comprenez que, à ce moment-là, lorsque vous niez des passages de l'Écriture qui se font référence entre eux, ben vous niez en fait l'inspiration des Écritures. Et donc à la fin, ce n'est plus que culturel et sociologique. C'est une invention d'un peuple très prétentieux qui a dit « Nous, toutes les nations, nous connaîtrons. » Et là, alors, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ah ben, sociologiquement, oui, ça a plu aux Romains, ça a plu aux Américains, ça a plu aux Slaves, aux machins, aux Africains, aux Asiatiques, mais tout ça, c'est du hasard. Enfin, quand même. Vous voyez, quand ils disent « Toutes les nations viendront à Jérusalem », tout ça, enfin, c'est... C'est quand même particulier. Car Ézéchias fit ce qui est agréable au Seigneur. C'était un roi de Juda, hein, un descendant de David. Et se tint ferme dans les voies de David son père, que lui recommanda Isaïe le prophète. Grand et véridique dans ses visions. Pendant ces jours, le soleil rétrograda et Isaïe prolongea la vie du roi. Hein, la prière d'Isaïe, il y avait un cadran solaire et l'ombre est repartie en arrière. Isaïe lui a dit pour que ma parole soit authentifiée, regarde ce signe, et il a vu l'ombre repartir en arrière sur le cadran solaire du palais du roi. Et Ézéchias devait mourir, et pour qu'il se prépare bien à la mort, Isaïe avait annoncé à Ézéchias qu'il allait bientôt mourir. Et lui, sur son lit d'agonie, il est écrit qu'il s'est retourné contre le mur et il a pleuré, il a demandé à Dieu de vivre. Et le lendemain, comme de temps en temps dans la Sainte Écriture, le pauvre prophète est obligé de venir dire l'inverse et dit « Dieu t'a accordé 15 ans de vie supplémentaire ». Sous une puissante inspiration, il vit les temps à venir et consola les affligés dans Sion. Il annonça ce qui doit arriver jusqu'à la fin des temps, Isaïe, et les choses cachées avant leur accomplissement. La mémoire de Josias est un parfum composé de suaves odeurs. C'est un autre roi. Préparé par l'art du parfumeur. Je passe. Pourquoi je passe ? Parce qu'il va y avoir le chapitre 49. Verset 14, qui va à nouveau donner l'histoire sainte. Vous me direz, vous êtes un passionné d'histoire sainte. Oui.